Donc voilà, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors voilà, nous venons de tourner une page de l'histoire au Québec. La finalité est toujours pareille. Donc une personne au pouvoir qui ne respecte pas la volonté des gens et qui n'écoute pas ses concitoyens, voire même les ignorer complètement par moment, arrive un temps, bien sûr, opportun où la balle lui revient. Plusieurs années au pouvoir l'ont rendu malheureusement sourde, aveugle, insensible à l'écoute de l'individu, de l'homme tout court. L'image de l'homme qui sillonne la vie de tous les jours ne lui dit rien, ou presque quelques bribes, des fois destinées d'être éliminées le plus rapidement possible. Et ce n'est pas l'utilisation, bien sûr, de la force ou la brutalité démesurée qui lui manquait, bien sûr. L'abus du pouvoir était constaté au plus haut niveau de l'État. Il est tellement vrai aussi, comme il le disait un chroniqueur du journal Le Soleil, plus facile d'entrer en politique que d'en sortir. L'entrée en politique, c'est la victoire, mais la sortie, dans la plupart du temps, c'est un peu amer et des fois même dramatique. Vous rentrez en politique avec des paroles, des promesses, des projets, des rêves même, et vous en sortez parfois avec des échecs, de l'amertume, de la déception, et finalement avec beaucoup de regrets de ne pas avoir été à la hauteur de la tâche que vous a été confiée. Tâche qui vous a été confiée, c'est celle surtout d'être à l'écoute de vos concitoyens. Quand justement la manifestation de milliers de personnes dans la rue ne vous en dit rien, encore pire, vous faisiez comme n'a rien été, alors là forcément il y a un problème, et quel problème? L'écoute, le dialogue, c'est l'arme des politiciens. Si vous l'avez perdu par défaut de l'usure ou d'autres, c'est une déclaration de la fin de votre reine. Maintenant, dans ce changement de gouvernement attendu et prévu depuis plusieurs mois, il faut noter que dans l'esprit des gens, il n'y avait qu'une chose importante et sur laquelle il fallait travailler, c'est celle de comment déloger Jean Charest de son poste de Premier ministre. Et ça ne peut venir que de sa défaite en tant que député de sa propre circonscription, celle de Sherbrooke. Alors, vous comprenez, chère auditrice, cher auditeur, qu'un gros fardeau de responsabilité était visiblement pesant sur les épaules des électeurs de cette circonscription. Et pour ça, nous devons, si vous voulez, énormément de reconnaissance envers les électeurs de la ville de Sherbrooke qui nous ont amenés à cette victoire, qui ont finalement compris le message de l'ensemble de la population québécoise de mettre fin à la vie politique de Jean Charest. Maintenant, semble-t-il que l'ex-premier ministre Jean Charest avait versé quelques larmes. N'oubliez pas qu'il y a des dictateurs qui ont préféré la mort, ou qui préfèrent, si vous voulez même, la mort que de perdre leur pouvoir. Le pouvoir en soi présente toujours un risque, et ce risque peut facilement augmenter par les années de l'usure. Donc il faut souligner que le pouvoir n'est pas un cadeau du ciel aussi. Maintenant, l'histoire de verser ou non des larmes est trop tôt pour la juger et la comprendre. Semble-t-il que les crocodiles versent abondamment des larmes. Alors il faut d'abord attendre un peu les conclusions, si vous voulez, de la commission Charbonneau, et surtout si laisser le temps faire son chemin de révélation. Une chose est certaine, Jean Charest a laissé l'image d'un homme au sens éthique douteux et très peu convaincant. Alors qu'il verse des larmes ou évoque des sentiments, rien ne change à l'héritage délégué à son parti. Une grande tache noire qui nous cessera probablement de s'élargir avec le temps. Nous avons tous aimé la réponse de notre première ministre Pauline Marois, quand elle était interrogée par un chroniqueur d'ailleurs de la presse, est-ce que les femmes ont une façon différente de diriger? Vous allez voir dans la réponse que Madame Marois avait bien saisi la leçon de son prédécesseur. Écoutez la réponse. Elle répondait, je crois que oui, les femmes aiment consulter, ce qui ne nous enlève pas notre capacité de décider. Jean Charest, dans son aveuglement, n'avait pas l'air de suivre le conseil et l'esprit de cette sagesse. Et pour une autre question, on lui a demandé aussi si les femmes étaient meilleures dirigeantes. Elle répondait, je l'espère. on accepte plus facilement nos erreurs, ce qui nous permet de rectifier le tir quand il y a des ajustements à faire. Alors bien sûr, elle évoque l'égoïsme de Jean Charest et son entêtement en perpétuité. Conclusion première, donc n'importe qui a pu remporter les élections dans la circonscription de Sherbrooke, sauf bien sûr Jean Charest, la majorité des électeurs de cette circonscription avaient tourné le dos et ils ont vu dans Serge Cardin l'image qui va les faire oublier le sang-froid et l'ignorance de Jean Charest. Nous avons évoqué les larmes de Jean Charest, les émotions aussi, et soi-disant ses sincères condoléances pour les victimes de l'événement tragique qui a secoué le métropolis. Sincères condoléances, savez-vous combien de fois au cours de sa carrière de Premier ministre, Jean Charest avait présenté des condoléances à ses victimes ou à des victimes, à des itinérants, à des vulnérables qui sont tombés sous les balles des agents de la SPVM. Par exemple, y a-t-il quelqu'un qui, pour ne citer une seule fois où Jean Charest s'est montré préoccupé par la mort ou l'assassinat tout court de l'un de ces gens-là? Malheureusement et tristement, en aucune fois, c'est la défaite justement l'a fait craquer pour verser les larmes, évoquer des sentiments, présenter des condoléances à un simple employé, ce ne sont pas les habitudes de Jean Charest. Ils sont plutôt que la défaite, l'humiliation ont éveillé chez notre ex-premier ministre un sentiment rarement observé, sinon inexistant dans la vie politique de cet homme-là. Alors, dernière conclusion peut-être dans cette introduction, même s'il reste beaucoup à dire à propos de la période de Jean Charest, il reste que lui-même a reconnu publiquement dans son dernier souffle politique et pour la première fois qu'il n'a pas tout réussi. Mais vous comprenez, chère auditrice, chère auditeur, l'orgueil de l'homme. Il a voulu, en vérité, nous dire qu'il avait commis énormément de gaffes et il nous a confié aussi qu'il prenait l'entière responsabilité de sa défaite. Il a réalisé que sa manière de gouverner n'était pas avantageuse pour le bien de la majorité de nos citoyens. Donc maintenant, nous ne pouvons malheureusement pas tout dire. D'ailleurs, le temps de cette émission ne le permet pas. Alors nous allons conclure finalement qu'une page de l'histoire vient de tourner et que le Québec prendra en définitive une voie nouvelle. Au micro avec vous ce matin, chère auditrice, chère auditeur, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Mon collègue Roland Cazès m'accompagnera le long de cette émission et nous avons avec nous sur le plateau une invitée, il s'agit de Madame Tamash Rokia, écrivain engagé. Donc, elle vit au Québec depuis plus d'une trentaine d'années, elle est d'origine algérienne, elle vient nous parler de l'élection de Madame Jemila Benhabib, elle aussi une Algérienne qui vient d'être parachutée par Madame Marois dans l'arène politique. Elle a échappé le siège de députée de Trois-Rivières par la candidate du Parti libéral, Madame Danielle Saint-Amand, qui l'a devancée par d'un millier de voix, si je ne me trompe pas. Une victoire bien sûr écrasante. Madame Tamash nous dira peut-être les raisons qui ont motivé le choix de Madame Marois pour que Madame Jemila Benhabib se présente en politique dans le Parti québécois. Sur ça, Madame Marois n'avait pas loupé un siège qui était probablement destiné à son parti. Nous sommes supposés d'avoir avec nous Madame André Vachon, une autre victime de l'abus de l'autorité qui a souhaité venir dénoncer deux agents des services de la SPVM, mais elle n'est pas encore rendue au studio. Alors sur ça, je vous laisse à l'écoute de notre thème musical et nous revenons avec la suite de cette émission. Restez à l'écoute.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien le fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà donc, rebonjour chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Bonjour Madame Rokia.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.
C'est gentil. Donc je retourne directement avant de discuter avec Madame Amash Rokia. J'aimerais bien parler Tamash Rokia. Avant de discuter avec vous, j'aimerais bien poser la première question à mon collègue Roland Cazès à propos de, vous avez tous entendu hein, la déclaration de Sam Ahmad qui disait « Moi, je suis royal à mon chef ». Donc il parle bien sûr de Jean Charest. Cette expression, à mon avis, n'est pas très courante ici au Québec. Et quelqu'un qui veut réellement, Roland, demeurer royal à son chef devra suivre.
Pour moi, il a voulu dire loyal et ça a été mal interprété. Je ne vois pas pourquoi royal, le mot royal, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans. Enfin, c'est une question d'erreur peut-être de diction ou autre chose.
Loyal, ok.
Moi, ce que je voudrais parler, c'est des élections.
La loyauté.
Oui. Mais je voudrais parler des élections. Ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils méritaient. Ils dégagent. Maintenant, je regrette que certaines personnes, par religion, et autres en effet d'un drame. Je trouve que c'est au Québec on est encore assez arriéré pour ça, mais revenons aux bonnes choses.
Oui, l'esprit, maintenant l'esprit.
On se sert des élections, on se sert de la carte d'assurance maladie, on se sert du permis de conduire. Quand aura-t-on notre carte d'électeur?
Vous avez sauté, Roland, vous avez sauté un autre sujet que vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Est-ce que l'esprit de Jean Charest devra disparaître de l'Assemblée nationale?
Il a disparu, c'est un fantôme, ça n'existe plus. Oui. Vous allez le retrouver dans l'enquête Charbonneau, oui. Et c'est pour ça ça qu'il est parti.
Mais les ministres qui restent quand même, comme vous avez vu, Salamat qui disait qu'il était loyal.
Il aurait pu demander un poste à un de ses collègues, mais il ne voulait pas rester, savez-vous pourquoi? Parce qu'il va faire beaucoup de tort au Parti libéral, à la collision avec la mafia, la collision avec tous ces gens-là, ça va apparaître avec l'enquête Charbonneau maintenant. Ouais, ouais. Alors il n'est pas intéressé à recevoir les seaux d'eau dans la face, il préfère se sauver. Mm-hmm. C'est la réalité. Ce que je préfère maintenant vous dire, j'ai trouvé affreux le système organisation du directeur des élections. Permettez-moi de vous dire qu'un monsieur qui encaisse des grosses sommes d'argent est incapable d'organiser des élections. J'ai vu dans des couples qui restaient depuis 10 ans dans la même maison, oui, qui ont toujours voté. Le mari avait le droit de vote, il n'a rien fait de spécial pour ça. Et la femme n'avait pas le droit de vote, elle n'était pas inscrite. Oui, mais... Comment se fait-il que pendant 10 ans, ils ont voté ces gens-là? Alors ça veut dire quoi? On a coupé le droit de vote à certaines femmes. Et je vais vous dire une chose, et certains hommes aussi, oui, je vais vous dire une chose, j'ai vu des gens insulter un monsieur qui, ça faisait 7 ans qu'il avait acheté sa maison et qui payait des taxes et tout ce qui s'ensuit, qui n'avait pas le droit de vote, il voulait s'arracher les cheveux, le pauvre homme. Mais il y a une frustration quand des citoyens se déplacent pour aller voter et qu'ils font leur devoir de citoyens, voilà qu'ils trouvent, ils tombent sur un mur et on leur dit « Ah, vous n'avez pas le droit de vote, vous n'êtes pas inscrit ». Mais ça fait 10 ans, je vote toujours de l'autre, tout ce qu'il y a. Ben non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de voter et tu es exclu.
Mais Roland, ça veut dire dans le...
Savez-vous combien écoutez, on nous a dit arrêtez de déposer des plaintes, on n'a plus assez de papier rouge pour déposer les plaintes contre le directeur des élections.
Mais excuse-moi Roland, juste parce que vous avez participé
à... Ah oui.
Dans la période des élections, vous étiez vous travaillez.
J'étais à l'entrée d'un poste qui s'appelait d'ailleurs la place à Verdun, qui s'appelle l'Académie Burning.
Oui.
Et je vais vous dire une chose, ça a très bien voté, ça a été par secours,
c'était bien passé, oui,
s'enfuit. Mais beaucoup de gens n'ont pas eu le droit de vote.
Ils se sont présentés, mais ils n'ont pas réussi à voter.
Ils n'ont pas eu le droit de vote. Et le mari avait le droit de vote, la femme ne l'avait pas, et ainsi de suite. Des cas comme ça, là.
Est-ce que vous avez fait des appels comme ça? Est-ce que vous avez fait des appels pour le directeur des élections, pour savoir qu'est-ce qui se passe?
Le directeur des élections vous répond, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'avaient qu'à faire leur devoir. Mais ils font leur devoir.
Mais parce qu'ils étaient pas sur la liste électorale.
C'est l'organisation, directeur des élections, qui n'était pas bonne. Lorsqu'ils vous envoient un carton à l'occupant, et à l'arrière, vous avez la liste des candidats qui se présentent avec leurs photos, je trouve qu'ils essayent de vous induire en erreur. Ça donne l'air de dire, choisissez, vous êtes inscrit. C'est ça que ça veut dire. Ils devraient mettre un carton avec une explication. Mais moi je dis que la meilleure solution c'est la carte d'électeur. Je suis tanné qu'on me demande ma carte d'assurance maladie. Ce ne sont pas des docteurs ces gens-là. Tanné qu'on me demande le permis de conduire. Je ne conduis pas. Je suis dans une salle à pied.
Alors
je trouve que la carte d'électeur que les gens mettent à jour lorsqu'ils déménagent, ils vont à l'hôtel de ville, il y a un ordinateur et ils mettent leur carte, ils mettent leur nouvelle adresse,
ça corrige.
Et tout se fait automatiquement. Ce que je veux dire, le directeur, ça c'est personnel. La police n'a pas le droit d'entrer là-dedans pour l'étiquette, pour ceci ou pour cela. Oui. On n'a pas le droit d'enquêter en passant par ce système. C'est uniquement privé au directeur des élections. Oui. Ça marcherait très bien.
Ça veut dire, Roland, vous êtes en train aujourd'hui, vous venez avec l'idée de nous proposer, c'est tout, un projet, pourquoi pas, d'avoir une carte électorale.
Vous, mon cher ami, est-ce que vous avez pu voter?
Parce que j'avais déménagé.
Vous avez déménagé dans l'année et automatiquement, c'est pas mis à jour. C'est mis à jour d'après la carte d'assurance maladie. Si ça marche aussi bien que la santé, eh bien voilà, voilà ce qu'on a automatiquement comme résultat. Ouais. Alors permettez-moi de vous dire que le directeur des élections, je voudrais savoir combien il touche pour organiser ça, moi je suis capable de le faire, d'organiser ça, puis de faire beaucoup de pognon sur le dos du monde.
Alors Roland, juste voulais savoir, c'est-à-dire la proposition, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas moi, comment...
Moi je vais en parler au gouvernement qui est en place. Maintenant il y a une chose que je peux vous dire. Il y a des gens qui prétendent qu'ils vont éliminer cette personne-là, ou le PQ du gouvernement, parce qu'il est minoritaire. Je vais vous dire une chose. Madame Marois, écoutez-moi bien. Faites une chose. C'est simple. Si vous défaites le gouvernement, je fais un référendum en même temps que l'élection suivante. Et là, vous allez passer au cash. Parce que le monde va être en colère, parce que vous dépensez de l'argent d'une façon lamentable. Oui. Ils vont vous foutre dehors, ils vont voter pour le référendum. Madame Marois, gardez ce point-là. C'est très important. Oui. La menace, l'épée de Damoclès. Si vous défaites le gouvernement, je présente une élection provinciale avec référendum à côté, à même l'élection. comme ça, ça va régler les problèmes. C'est une stratégie qui est excellente.
Oui, madame, je retiens maintenant juste une petite question simple, madame Tamash. Oui. Excusez-moi, j'avais mal prononcé votre nom. Qu'est-ce que vous avez suivi un petit peu les élections
Oui, je les ai suivies. J'ai écouté surtout, j'ai suivi les débats à la télévision.
C'est tous les débats, oui.
Mais je n'ai pas suivi jusqu'au bout parce que c'était rien que de la bataille. Vous avez fait.
Ça ne vous a pas convaincu?
Non, pas du tout.
Mais vous avez un choix qui était déjà choisi d'avance?
Non, quand j'ai écouté les interviews à la radio, Radio-Canada, par monsieur Desautels, là, j'ai pu avoir une idée pour qui je devais voter.
Ah ben voilà.
Mais j'avais été un petit peu déçu de la part de madame Marois, je l'avoue, parce qu'à aucun moment elle a dit je vais faire. C'était toujours on va se renseigner, on va s'informer, on va s'asseoir, on va discuter, on va réfléchir.
Mais vous préférez quelqu'un qui...
Elle m'avait pas... Oui, je voulais quelqu'un qui arrive à me convaincre en disant on va faire. Ouais, mais même si ça ne plaisait pas à tout le monde.
Monsieur Legault, il a dit qu'on va le faire.
Oui, il avait dit qu'il allait même...
Pourquoi il vous a convaincu? Vous avez voté pour lui?
Il m'a convaincu pour les médecins. Surtout, moi je trouve ça normal. Oui, c'est vrai que les médecins travaillent pour la population avant de quitter le Québec, aller ailleurs, comme dans certains pays qui payent les études des médecins puis ils partent travailler ailleurs pour avoir plus d'argent.
Oui, mais c'était pas des projets qui étaient...
Oui, mais quand même...
C'est pas réaliste, la preuve...
Je suis d'accord avec vous parce que même quand on me dit, moi j'ai suivi une formation de politicien, moi ça me fait peur parce que pour moi, politicien, c'est savoir mentir parfois puis savoir duper les autres.
Tout à fait.
Donc, on ne m'a pas convaincu. J'ai voté comme ça parce que j'aurais voulu ne pas voter, je vous dis franchement, mais je me suis dit, ma voix, il faut bien qu'elle porte à quelque chose.
Mais madame Tamash, je sais que vous êtes une vraie féministe, engagée, il faut le dire.
Mais pas aigri ni frustré, hein.
Ah, je suis d'accord.
Pas contre les messieurs, pas du tout.
Non. D'abord, donc pour vous, qu'une femme devient Premier ministre au Québec, est-ce que c'est un espoir?
Oui, je trouve ça une ouverture. Si, par exemple, elle n'est pas grisée par le pouvoir, parce que le pouvoir grise parfois, puis mène au délirium, qui détruit l'individu, puis ceux qui sont autour de lui.
Voilà. Un dernier mot pour Jean Charest.
Monsieur Charest, il a fait son chemin, puis je trouvais ça normal qu'il parte et puis qu'il laisse la place à d'autres, la chance à d'autres pour changer un petit peu.
Parfait, donc on va juste, si vous me permettez, Roland.
Moi j'ai une objection. Monsieur Legault est un gros fanfaron qui avait dit qu'il n'accepterait pas un gouvernement minoritaire, qu'il le foutrait en l'air, et là tout d'un coup il est élu, alors il s'accroche.
Mais de bonne foi, vous
trouvez qu'il est de bonne foi?
Moi, je pense
vous n'avez pas le même choix que moi.
Je pense que le balai, qu'il avait...
Je vais vous dire une chose. Cet homme-là, c'est une grande gueule. Je vais vous rappeler que la compagnie Transat a été remontée par le Fonds de solidarité de la FTQ. C'est le syndicat de la construction, n'est-ce pas, dans laquelle j'ai participé, mon cher ami, que nous avons pu remonter Transat. Où il était le comptable? Il a oublié ça. Il faudrait qu'il se réveille, qu'ils y pensent un peu, là. C'est lui qui a foutu Transat dans le trou, il était le comptable.
Mais
alors, heureusement qu'il n'est pas au gouvernement et qu'il est seulement vantard. Bonjour, monsieur Legault.
Parfait. Donc, c'est ça, chers auditeurs, chers auditeurs, restez à l'écoute. On va juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec madame Rokia Tamash à propos d'un autre sujet qui concerne la candidate madame Jamila Benhabib. Voilà, c'est l'écoute.
Chez moi, il devait être 9h15 le soir, la mi-décembre, à ce moment faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue, sonne, j'ai à peine aperçu l'autopatrouille qui accélérait. Une fois dans mon char, je démarrais, puis tourne à gauche, je dirais que je rentre dans la ruelle, me stationnais derrière la piole. Je jette dans mon rétro, qui que je vois de la popo, de face de banane, comme s'il voulait prendre en photo. À peine le pied au sol, on me crie, reste dans ton auto, reste dans ton auto, reste dans ton auto. Ok, j'ai compris, c'est toujours mieux de rester poli, mais pourrais-je me m'acquérir de vos motifs pour me coller? Écoute, on t'intercepte, on s'en capuche sur la tête. Pour ma part, de rétorquer, c'est l'hiver qui fait frette. Je vais te donner un indice, présentement, il fait moins 10. Difficilement, elle acquiesce, mais bon, il fallait qu'il insiste. Yo, tout ce que je dis est vrai, si je mens, elle existe. En fait, à vrai dire, on n'a aucune idée de qui. On veut seulement t'identifier, pourquoi te sentir attaqué. Je veux savoir pourquoi, first, c'est qu'il ne connaît pas. Mais connais-tu le voisin d'en face ou bien la petite madame d'en bas? Non. Connais-tu chaque citoyen de la ville? Non. Alors pourquoi suscitais-je plus son intérêt? Qu'est-ce qui me différencie en telle ou telle personne ici? Qu'est-ce qui dans mon apparence fait que je me demande mes IDs? apparemment perplexe. Il me répond, je vote trop. Refilage, la vie n'est fake avec l'aval de ses patrons. Ici à Québec, ça fait partie de la tradition. Laisse-toi coller, ferme ta gueule, surtout faut pas poser de questions. Non, c'est pas vrai, faut que tu poses des questions. Mais reste poli, reste calme. Prends le matricule en note, prends la date, l'heure. Comme ça, tu montes le dossier. Par souvent elle s'excite, l'équipe pense au sauton. Va demander à Mixis ta face sur pause sur le béton. Pourtant une ville tranquille donc ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de jeunes policiers sont bien trop chauds à battre le fer. Tout frais sont pris de four, 22 ans et demi. Une page, une arme à feu, mais si peu d'expérience de vie. Y'a pas de gang, juste un prétexte politique. Tout ce qu'ils veulent c'est le budget afin de payer les dents. C'est tellement irresponsable de la part de l'état-major. Stigmatise le pop et black, je leur envoie le doigt majeur. Adepte de la répression, ils pensent qu'ils vont tout régler seuls. Ne leur parle pas de prévention, c'est un concept qui déboussole. Mais bon, pour être honnête, ils sont pas tous brutiniens. Faut pas généraliser, même si c'est plutôt dur d'y croire. Et ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Mets ton poing dans les airs si jamais ça t'est familier. Si jamais ça t'est familier.
Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct avec votre émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, je vous remercie une deuxième fois, Madame Tamache, d'avoir accepté de notre invitation aujourd'hui. Et j'aimerais bien, voulez-vous, vous vivez ici depuis 33 ans.
Plus de 33 ans.
Vous êtes une femme civilisée, engagée, intellectuelle.
Oui.
D'ailleurs, vous avez venez de publier un livre, un roman qui s'appelait La goutte qui déborda. Et pouvez-vous me dire de pourquoi vous avez pensé à choisir ce livre-là, à écrire ce roman-là, et quel est le contenu?
Oui, ce roman-là a été dicté par une situation il y a plusieurs années, il y a plus de 20 ans. J'avais écouté à la radio-télévision. Oui. On allait mettre sur pied des banques de données de sperme anonymes.
Oui,
oui. Ça m'a fait hérisser les cheveux sur la tête parce que tout de suite j'ai réagi en disant, a-t-on pensé à la consanguinité? Oui. Et j'attendais que les médias en parlent, personne n'en parlait, puis moi ça me tenait à cœur.
Depuis 20 ans l'idée est
là. Oui. Puis un jour mon fils m'a dit, écris une histoire, et puis ça s'arrête là.
Oui.
Alors moi j'ai ficelé mon histoire, mais j'ai fait beaucoup de recherches.
Mais pourquoi vous l'avez présenté sur le volet roman?
Oui, parce qu'il me fallait une histoire, comprenez-vous.
Ouais.
Alors c'est sûr, c'est empreinte de réalité et de fiction.
Ouais.
Mais toutes mes recherches, toutes les données que je donne, elles sont vraies. Parce que j'ai contacté le Santé Bien-être Canada, les cliniques de fertilité, puis chaque fois mes cheveux se dressaient davantage sur la tête. Oui, parce que vraiment, j'en revenais pas. Surtout quand j'ai appris qu'un donneur de sperme anonyme pouvait donner dans plusieurs cliniques.
Ouais.
Et le sperme qui donnait dans une clinique pouvait servir à plusieurs femmes.
Tout à fait. Tout
donc il y a des demi-frères et demi-sœurs qui se promènent dans la nature.
Tout à fait.
Ouais. On ne s'est pas soucié du.
Et ça dérange en quoi ça, Madame Pont?
Ben, ça dérange les mélanges parce que vous savez, ça donne des tares vraiment extraordinaires, des tares qui dérangent une société.
Ouais.
Absolument. Ben, dans mon roman, je l'écris, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches même dans la médecine pour écrire ce roman.
Ouais.
Je ne l'ai pas écrit de façon farfelue.
Non,
et bien sûr, on ne parle pas de ces romans parce que ça donne à réfléchir. Comprenez-vous?
Ouais.
Et ça touche les lobbies aussi, parce que en tout cas, mais quand mon livre était en édition, il y a un journaliste qui en a parlé, mais il n'a pas parlé du côté obscur.
Voilà, l'obscurité.
Tandis que moi, je parle du côté obscur.
Ouais.
Et ce roman restera gravé dans ma mémoire. Il sera quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'a permis pour moi d'aider, parce qu'il y a monsieur Marcel Mercier, c'est un écrivain auteur de plusieurs ouvrages, qui a lu mon premier jet, puis c'est lui qui m'a encouragé à le terminer parce qu'il trouvait qu'il était bien structuré, puis qu'il était intéressant. Et lui, il écrit, il dit que c'est un livre éducationnel.
Donc pour vous, j'imagine que vous conseillez toutes les femmes de le lire, peut-être?
Oui, absolument. Et même les messieurs. D'ailleurs, je l'ai dédié à toutes. Regardez, là, je le dis, là, je l'écris. Je le dédie.
préface.
Je le regardais. Ce récit est dédié aux donneurs de sperme anonymes, oui. à leur progéniture ainsi qu'à toutes les femmes.
Voilà.
Et personnellement, il touche toutes les sociétés dans le monde. Oui. Chacun sa raison oui. d'avoir recours à cette façon de faire.
Vous savez que dans
Et je ne suis pas, pardon, contre l'insémination. Hein.
Non, non. Ah,
je suis c'est... contre l'insémination qui est incontrôlée.
Incontrôlée. Oui, oui. Mais vous savez que dans les îles d'antan,
oui.
Il y avait des rois qui étaient là,
oui.
qui offraient leur fille à des marins de
oui,
façon
oui.
à pouvoir renouveler le
oui,
sang.
Oui, oui,
Et
oui.
savez-vous qu'ils avaient beaucoup de Mongols à la
oui,
naissance,
oui,
ils
oui.
étaient obligés de les
oui.
plonger sous une cascade oui. glacée.
Et là,
s'ils survivaient, survivaient. Et ils envoyaient même leurs jeunes
oui, oui.
en barque pour aller fertiliser
oui, c'est
d'autres
passé
îles,
beaucoup de choses.
D'autres gens, et ainsi de suite.
Mais vous savez, dans un pays qui est civilisé surtout comme le nôtre,
oui.
on interdit la consanguinité, les mariages consanguins entre cousins,
Exactement.
Mais on va permettre entre demi-frères et demi-sœurs.
Et voilà.
Voilà.
Parce que les liens du sang attirent.
Et je sais aussi que Mme Tamas, ce n'est pas le seul livre,
oui.
Mais je sais que vous êtes en chantier aussi, vous avez
oui, oui,
travaillé
oui,
sur
oui,
d'autres,
oui, oui,
d'autres
oui,
idées
oui, oui.
et tout.
C'est toujours des livres qui donnent
Alors,
à réfléchir.
Alors après avoir travaillé, je pense, à occuper plusieurs postes dans le fédéral et tout,
oui, 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 oui.
vous arrivez maintenant à la retraite et
oui.
vous consacrez votre vie à l'écriture.
Exactement, puis à l'art, parce que je suis aquarelliste aussi, puis
oui.
je suis designer et styliste sur soi.
Voilà, donc vous avez tout le plaisir. Maintenant, laissons un petit peu le côté
oui.
Créativité
oui.
De votre côté. En revenant maintenant un petit peu à cette histoire de Madame Jamila Benhabib.
Oui.
Vous savez que Madame Marwa, vous me corrigez peut-être,
oui.
c'était Madame Marwa qui était allée chercher Madame
Je ne suis
Jamila.
Pas sûre, c'est elle qui est allée chercher
c'est,
ou c'est elle qui s'est présentée puis de connivence toutes les deux, elles ont.
De toute façon, l'idée.
Elles peuvent se faire, ça peut se faire aussi
vous
les.
Vous savez que Madame Jamila Habib, elle vit ici au Québec depuis une dizaine, douze ans maximum. Et elle avait écrit, je pense, deux livres. Elle s'est
oui,
reconnue par ces
surtout
deux livres.
Oui, ben elle a fait son chemin. Ben, quand Mme Marwa dit que Mme Jamila Benhabib, pour tout le respect que je dois aux deux personnes, aux deux
oui.
femmes,
oui.
c'est que Mme Jamila Benhabib, elle dit qu'elle a fait son cheminement. On ne peut pas faire un cheminement de quelques années ici. Il faut rester longtemps pour étudier la société dans laquelle on vit,
oui.
pour bien la cerner. Mais elle prétend qu'elle a fait son cheminement, probablement avec les livres qu'elle a écrits et surtout.
Avec les livres qu'elle a écrits.
Oui, oui, elle a écrit. Deux livres,
oui.
Madame Benhabib, et surtout Ma vie à contre-courant,
oui.
où vraiment, personnellement, le fait qu'elle se dit athée, je considère que ce livre est xénophobe.
Oui.
Elle a une attitude xénophobe envers l'islam,
oui.
et en plus, après, j'ai compris qu'elle est, le fait qu'elle est athée, elle était contre toutes les religions, au point enfin, de parler du fameux crucifix qui, pour moi, fait partie du patrimoine national.
Tout à fait.
Elle n'a pas parlé du judaïsme, je ne connais pas son opinion, sauf que je me dis si on a le courage de ses opinions, qu'on est athée puis qu'on est contre toutes les religions,
oui.
que devrons-nous faire avec les gens qui portent des tresses
oui.
en Outremont, qui portent une coiffe? Est-ce qu'ils dérangent?
Oui, justement, madame, le problème, c'est qu'il y en a trop, madame. À chaque coin de rue, il y a une église, il y a une baptiste, il y a comment vous appelez ça, dans Outremont, il y a plus de synagogues qu'à Jérusalem. On a des églises ici à perte de vue, on ne sait plus quoi en faire, on ne peut même plus faire l'entretien.
Oh,
il y a
voilà.
un abus de capitaux, de taxes et tout ce qui s'ensuit, que ces gens s'enrichissent sur notre dos à nous,
oui.
sur nos pères de famille qui ont besoin de cet argent-là pour les écoles. Et
mais Roland, je suis d'accord avec toi, mais ça c'est un autre sujet.
Il y a un abus.
Moi, je voulais
arriver. Arrivons maintenant, revenons
oui,
Madame, Tamas, si vous me permettez, revenons maintenant à ce choix de Madame Marwa.
Mm.
On sait que Madame Marwa, c'est une grande dame. Elle est,
une politicienne.
Une vraie politicienne,
oui.
pour moi, au propre sens. Et du mot, et elle est... engagée, une femme engagée aussi, une femme qui pour vous, Roland, qui connaissait très
bien. Oui, je la connais
moi,
très bien depuis le tout début des élections,
carrière,
madame, monsieur,
madame
de monsieur. Écoutez, monsieur l'évêque, elle était là, et puis tout ça. Madame Marwa, il y a eu dans sa famille beaucoup de sacrifices de la part de son mari,
voilà,
qui s'est
oui.
occupé des enfants pendant qu'elle
s'occupait de
travaillait
politique.
De la politique.
Oui.
Elle a fait beaucoup de sacrifices aussi.
Donc, oui.
mais, comme beaucoup de femmes.
Hélas,
oui.
mais au moins, elle a eu un mari qui l'a secondé.
Oui.
Il
l'a supporté aussi.
Elle a eu cette chance, disons.
Oui, oui, bien
il a,
sûr.
Il a, alors, bon, revenons, madame.
Oui.
Moi, je reviens le plus. Moi,
oui.
La question qu'il y a des gens qui m'ont posé, ce choix-là que madame Marwa, qu'est-ce que vous voyez dans ce choix-là que madame Marwa était allée chercher? Alors, elle a été chercher madame Jamila Benhabib.
d'origine algérienne, et qui a une aversion. Il faut dire ce qu'il a, parce qu'elle est athée, puis elle a une aversion.
Moi, pourquoi ce choix-là?
Personnellement, bien sûr, j'ai essayé d'analyser ce choix, puis j'en ai parlé même, moi aussi, à des personnes, des intellectuels québécois et non québécois, parce que québécois, maintenant, on ne sait plus qu'est-ce que c'est, si c'est de souche, de pure laine, ça change chaque année. Ouais, c'est pas plus grave que ça. À mon avis, Madame Marois a choisi Madame Benhabib de façon sournoise. Oui. Elle a catapulté à Trois-Rivières, oui, loin de la résidence de Madame même Benhabib,
oui,
spéculant sur sa victoire, oui, pour que par la suite elle emmène à l'Assemblée nationale et qu'elle fasse passer des lois qui, à mon sens, vont brimer le droit de certains individus.
Voilà.
Parce que moi, quand j'entends l'égalité homme-femme, ici, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique qu'est-ce qu'on veut dire. Devons-nous être vraiment égaux en apparence? On ne peut pas, un homme et une femme, on est différents. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux sur le plan de la dignité.
Oui.
Mais nous faisons des choix dans la vie, et beaucoup de personnes sont ici par choix de liberté pour un semblant de démocratie. Si on commence à brimer les femmes dans leur propre choix, qu'est-ce qui va advenir?
Oui.
C'est ça que je m'explique. Et excusez-moi, comme Madame Benhabib, enfin c'est malheureusement Madame Marois, elle a spéculé, mais que la gloire est souvent frivole, comme a dit Charles Aznavour. Oui. Et quand on la croit nôtre, elle s'en prend un autre, il ne reste plus rien. Maintenant, il faudra qu'elle trouve d'autres moyens pour faire passer enfin cette loi qu'elle prétend, enfin qu'elle prévoit de laïcité.
Madame, je m'excuse. Ce que vous voulez dire, est-ce qu'elle aurait choisi d'origine musulmane qui ne pratique plus ou qui
non,
est
athée? J'ai pas dit ça.
C'est pas le cas.
Non, écoutez, chacun son opinion, Monsieur Cazès, puis je respecte la vôtre.
Oui,
moi, j'ai fait une analyse en tant que femme. J'ai fait une analyse parce que même si ça fait 33 ans que je demeure ici, je reste pour beaucoup de personnes une Algérienne. Ça, moi, quand on me rencontre, on me demande d'où venez-vous. On me dit même pas quelles sont vos origines. On me dit d'où venez-vous.
Après 33 ans.
Oui. Ça, c'est. J'entends, il y a mon accent.
Et ce fait de vous dire d'où venez-vous, c'est pour vous, vous êtes pas québécois.
Oui. C'est ça.
C'est un
rejet. C'est pas un rejet, c'est que je ne peux pas non plus. J'aime beaucoup le Québec, puisque vous verrez dans mon livre, je décris Montréal, j'adore Montréal. Tous mes amis sont québécois. J'ai
votre
un ami.
Oui,
absolument, je suis ici. Moi, quand je vais en Algérie, je suis presque une étrangère là-bas.
Exactement, vous êtes québécoise.
Le plus important, c'est d'être bien là où nous sommes et de participer, de contribuer à l'édification d'un pays.
Oui.
Je pense que c'est ce que je fais.
Tout à fait. Revenons maintenant, Madame Tamache. Vous savez qu'il y a, et s'il n'y a pas juste le Parti québécois, il n'y a pas juste une militante, il y a des centaines de militantes. Et ce choix-là, revient toujours ce choix-là.
Qui a été ciblé parce que madame, je reviens toujours à dire, madame Jamila Benhabib se dit athée. Donc elle est contre toutes les religions. Moi je trouve ça encore plus difficile que agnostique. Mais ça regarde chaque individu. C'est des choix qu'on fait, puis que nous avons le droit d'adhérer enfin à un dogme ou autre, c'est ça. Tant qu'on ne trouble pas l'ordre public, c'est ça que je trouve.
Donc
elle a choisi, moi personnellement, je considère que c'est sournois, on m'enlèvera jamais ça
dans ce
de
cas
mon
là,
esprit.
Dans ce cas,
excusez-moi monsieur Zitouni, puis je ne suis pas la seule, j'ai discuté avec des personnes intellectuelles, des personnes politisées qui étaient de toutes origines, et ils sont tous dit, c'est drôle, elle a été utilisée.
C'est ça le mot.
Oui, les mots qu'on m'a dit, elle a été utilisée.
C'est ça, abaissée à une personne.
Oui, vous prétendez,
Madame
Marois, deviner que le maire tremblait.
Non, je ne parle pas du maire.
Aurait
non,
critiqué
non,
madame non, à cause du crucifix.
Non, Roland,
on ne parle pas vraiment du maire.
Moi, la seule chose qu'il y a, ce maire-là, je l'aurais foutu dehors,
à couper
dans le cul. C'est ça qui mérite ce connard.
Mais Roland, ça, je suis d'accord avec vous sur ça. Mais là, parce qu'il y a une idée que Madame Tamache, elle va essayer d'arriver. C'est vraiment inquiétant et c'est un petit peu, si vous me permettez, c'est une insulte. C'est-à-dire, si Mme Jamila a été utilisée.
Elle a accepté.
Oui.
C'est son choix, comprenez-vous. C'est là où
elle a accepté d'être abaissée.
Je ne sais pas comment elle a pris ça, mais moi, excusez-moi, à mon avis, ouais, c'est là où ça me prouve que cette dame ne connaît pas très bien les valeurs auxquelles sont attachés les Québécois ici, le peuple québécois.
Ouais.
Et surtout à Trois-Rivières et partout. Ouais. Les gens sont attachés à leurs valeurs, ouais, aussi bien culturelles, religieuses, même s'ils se disent, même s'ils rejettent l'Église. Vous savez, au fond, il y a toujours quelque chose qui reste au fond d'un individu.
Ben oui,
donc, il faut connaître l'individu avant de venir, excusez-moi, ouais, d'ailleurs, et d'imposer presque une loi.
Ouais.
Ça, c'est vraiment une aberration.
Mais c'est la seule chose que je ne suis pas d'accord avec vous, Mantama. Ça veut dire que si quelqu'un il vient et il décide de vivre ici,
oui,
il décide de se présenter aux des élections, il n'a pas le droit de se présenter.
Non, il peut se présenter, mais ne pas chambouler avant de connaître les valeurs fondamentales de la société dans laquelle il a choisi de vivre.
Mais vous, madame,
parce qu'il y a une majorité.
Vous vivez ici depuis 33 ans, vous connaissez mieux d'autres dans la culture. Vous pouvez se présenter comme candidate aussi.
Oui, mais je n'aime plus la politique. J'ai été dans la politique avant. Je l'ai fait toute ma vie, et je sais que c'est un gouffre sans fond, comprenez-vous. Oui, on ne peut pas être intègre totalement quand on est dans la politique.
Donc pour vous, je vous pose la question à mon ami Roland Cazès, à propos, pour vous, ce choix-là, c'est une des premières erreurs qu'a commis Mme Marois
Oui, pour moi, personnellement, je le prends comme ça.
C'est la première grande erreur, la gaffe qu'a commis,
parce que...
Et même ça qui explique un petit peu ça, comme quoi elle a reçu une grande gifle, Mme Djemila, la défaite a été écrasante
peut-être qu'elle va réfléchir sur... Enfin, à l'avenir, ça la regarde. Moi, je n'ai pas à lui dicter.
Maintenant, je poserai la question à Roland.
Moi, je trouve que c'est elle qui devrait nous dire exactement qui a choisi. C'est peut-être elle qui a choisi ce comté.
Oui.
On ne sait pas. Mais on ne sait pas si cette femme a choisi ce lieu.
Trois-Rivières, Roland. Plus rapidement, Trois-Rivières. Si Djemila n'était pas là, une autre militante ou un militant péquiste, pensez-vous pas qu'elle a pu...
Moi, ce que je prétends, c'est que les maires des municipalités doit se fermer la gueule quand il y a des élections au provincial. Je regrette aussi non qu'ils présentent leur démission et après ils ont le droit de s'exprimer en tant que citoyen. Mais là, il s'est prononcé en tant que citoyen, en tant que religieux, représentant le prêtre, l'église et la politique. Mmh. Et il était pour M. Charest. Mmh. Monsieur, vous avez eu votre M. Charest dans la poubelle. Et vous allez aller à la poubelle au prochain coup. Je vous le promets.
Okay, voilà.
Croyez-moi, vous allez être crucifié.
Madame Tamache, excusez-moi, vraiment des fois ici, mais Madame Tamache, pour vous, je repose la question à vous, je vous repose la même question. Si dans ce comté-là de Trois-Rivières, il y avait une autre candidate péquiste, est-ce que pensez-vous qu'il y avait plus de chances qu'elle peut avoir les élections?
Moi, si c'est mon opinion, je dirais oui.
Oui, voilà.
C'est tout à fait. C'est ça, je dirais oui.
Je partage la même idée.
Oui.
C'est-à-dire le choix de Mme Marois
a été mal calculé.
Elle a perdu des voix aussi.
Mais là, regardez, elle a...
Vous faites de la peine, vous prétendez, ça fait 30 ans que vous vivez dans le pays, et moi, je vais vous dire une chose.
Oui.
Il est évident que les maires des municipalités agissent comme des petits rois.
Je n'ai pas parlé des maires.
Écoutez bien, moi je vous en parle parce que c'est lui qui a parlé du crucifix.
Oui, mais c'est pas la même
chose. Il s'est attaqué à Madame Habib, Ben Habib, je m'excuse. Oui. Il s'est attaqué à elle d'une façon lamentable en lui reprochant de ses origines.
C'est ça,
c'est du racisme.
C'est parfait.
J'appelle ça du racisme, moi.
Très très bien. Maintenant, Madame.
Moi, je n'ai pas parlé du maire.
Moi, je parle du maire. Il a fait du racisme et il mérite de démissionner.
Monsieur Cazès, on va vider le Québec des gens racistes, on va vider le Québec.
Je vais vous dire une chose, il y a des gens qui ne sont pas racistes, il y a des gens qui sont ignorants. On en a beaucoup, malheureusement.
Oui, peut-être qu'ils...
Madame Marois, Madame Tamache, vous êtes une féministe engagée. Madame Marois, c'est une féministe aussi.
Oui, absolument.
Ce qu'on voit, d'ailleurs devant moi, le journal de la presse est devant moi, il y a une page que je viens la première, l'actualité, il est marqué, je vous lis, il y a un article, deuxième page de l'actualité, alors je vous lis, je cite, de jeunes femmes, parfois à peine majeures, ils cherchent de manière totalement assumée des hommes riches pour les gâter, les introduire dans les hautes sphères de la société, les amener en voyage. On parle ici de la femme objet.
Si oui, il y en a beaucoup. Partout dans le monde entier, des femmes objets.
Alors, qu'est-ce que...
Ça, c'est un autre débat. C'est sûr que moi, je suis contre la femme objet. Parce que être féministe, ce n'est pas autoriser des femmes là, à se montrer presque nues pour... avoir de l'argent ou autre, mais ça les regarde. Féministe, ça veut dire vraiment la dignité. c'est dans la dignité.
Ouais, la liberté, ça arrive.
Oui, oui. Ah, la liberté, là, elle n'a pas de limite, la liberté.
Ouais.
Elle n'a pas de limite. On permet, mais moi, ce que je trouve un peu, disons, paradoxal, c'est qu'on permet ce genre de choses, mais on ne permet pas à une personne si elle se couvre totalement.
Alors, ouais, comme ça, vous êtes contre le Moulin Rouge, quand
j'ai pas dit
à
ça.
Paris,
j'ai pas, c'est des spectacles, c'est des spectacles. Je parle dans la rue, je parle
dans la rue. Ah, dans la rue, oh, vous voulez dire une prostituée.
Non, j'ai pas dit
mais
ça.
Mais c'est un nom.
Non, j'ai pas dit ça.
Non, mais
c'est bien. Une prostituée.
Non, mais tout ce qu'on parle, Roland, c'est vraiment, on parle du mouvement féministe et tout.
Oui, ben il est contre les femmes objets, il ne veut pas, parce qu'écoutez, pour être féministe, on n'a pas besoin de présenter des femmes objets. On se bat pour la liberté des femmes, la liberté de
exactement.
Choix qu'elles font dans leur vie de tous les jours, d'être indépendantes, autonomes, enfin subvenir à leurs besoins sans avoir à vendre leur charme.
Oui.
C'est différent.
Mais si elle décide de vendre son charme,
ben elle a le droit.
Aussi.
Elle a le droit.
Voilà, c'est ça qui est important.
Ah oui, elle a le droit.
Vous pouvez
tout le monde
empêcher.
A le droit. Non, 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 non.
Une femme de 30 ans n'a pas le droit de marier un gars de 60 ans.
Mais on n'a pas dit ça.
Pourquoi tu te prépares pour ça, Roland?
Vous prétendez que quand une jeune femme marie un homme de 60 ans, c'est pour voyager, pour son
non, on n'a pas dit ça.
Non, mais ça, c'est on parle ici, parce qu'on parle de femmes jeunes.
Non, j'ai pas parlé de ça, monsieur.
À travers
Fintel.
Les âges, il y a l'amour.
On va juste faire une petite pause musicale très rapidement, brièvement, et puis on va revenir avec la fin de cette émission-là.
Sont arrivés en Westphalia, criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam, on se serait cru 30 ans passé pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux plis poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la main foule grelottait en ce 3 jeudi printemps, et aux étudiants qui forçaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot, et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, émeutés des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système, et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes, sous de ninja cagoulés, se proclamant activistes. Comme des flics Che Guevara, ils ont pitché deux trois pétards. Les bus sont rendus dans le tas, c'est sûr qu'ils ont pas payé tard. Car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, bien étouffés par la fumée. Des gaz lacrymogènes aux vêtements mal à la gueule de fils qui dansaient à poil sous la pluie, faisaient comme un remake de Grease. En mission il bénit quand le ciel s'est déchiré, il s'est mis à tomber des clous, tout ont pris leurs jambes à leur tour, et ce fut terminé, parce qu'on est rentré déçu, tout mouillé et abattu, en croisant les écolos, dans le portique d'un McDo, j'en suis venu à conclusion, ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution.
Cher auditrice, cher auditeur, excusez-nous. Donc, on revient sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Il y avait très un dialogue ici, il y avait quasiment un accrochage avec...
Non, c'est pas un accrochage, c'était une opinion.
Ouais, vous avez allé un petit peu trop loin. Revenons, Madame Tamache, un petit peu. À propos, je sais que Madame Françoise David, Madame Pauline Marois, tout le monde parle d'un mot qui est très bien. Vous êtes féminin, qui est l'égalité. Hein,
oui, égalité homme-femme, mais moi j'aimerais comprendre, parce que j'aimerais beaucoup qu'on me donne des explications, des détails sur homme-femme.
Vous ne comprenez pas ce qu'est l'égalité entre femmes, madame?
Non, c'est pas... Je ne comprends pas ce qu'elles veulent dire. Ouais. Parce que l'égalité, enfin, pour moi, c'est sûr, c'est la dignité, c'est d'avoir accès à une vie, la même chose. C'est sûr, je ne demande pas d'aller dans une taverne comme un homme, je n'ai pas besoin de ça.
Sur le pied, même
le
pied d'égalité.
Travail, ouais. Oui, que je sois reconnue sur le même pied d'égalité qu'un homme.
Tout à fait,
je suis entièrement d'accord, mais je trouve qu'il y a beaucoup de chemin à faire déjà. Ouais. Déjà, il y a une différence. Il n'y a pas d'égalité entre les femmes immigrantes qui viennent travailler ici dans leurs premières années. Entre elles et les femmes québécoises, il n'y a pas d'égalité. Oui. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes immigrants qui arrivent, même diplômés, et les Québécois ici. Donc, il y a beaucoup de choses déjà. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on devienne égaux, plus ou moins égaux. Vous savez, ça, c'est comme la justice. On essaye, comprenez, on patine, mais qu'on montre une ouverture, mais qu'on ne dise pas rien, qu'on galvaude des mots égalité homme-femme, puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils veulent nous dire.
Je suis d'accord avec vous. Oui. Ce sont des médecins qui viennent ici, qui font chauffeur de taxi parce qu'on leur a promis, puis là, on ne tient pas parole. Ça, c'est la mafia de la médecine qui se tiennent leur poste et qui veulent faire la loi. Oui. Il faut casser ces gens-là.
Il y a d'autres choses. Il n'y a pas rien que dans la médecine.
Voilà. Mais il y a médecine, les ingénieurs et tout le kit vient, madame. Je comprends très bien. Ça, je comprends très bien. L'égalité avec ces gens-là, oui. Avec, naturellement, un internat pour qu'il puisse se mettre au jour du pays. Maintenant, cependant, ce que je trouve de malheureux, c'est le gars qui vient avec quatre femmes, je regrette infiniment. Les mormons et puis les islamiques qui ont le droit d'avoir quatre femmes, je regrette. C'est interdit dans ce pays.
Mais Roland, toi, tu connais combien de femmes pour toi?
Moi, je suis célibataire. Non, mais j'ai toutes les femmes avec moi.
Voilà, donc vous avez une dizaine en moi.
Voilà.
Revenez Tamache, Madame Tamache, excuse-moi, vous avez voulu dire un mot.
J'aimerais demander à Madame Marois, c'est sûr, elle ne m'écoute pas, mais ceux qui m'écoutent, peut-être qu'ils pourraient lui rapporter ce petit mot, enfin, parce que je sais qu'elle est prête, à faire appel à une clause dérogatoire en ce qui a trait à une nouvelle charte de laïcité qu'elle est sur le point de créer. Moi, j'espère tout simplement que Madame Marois consultera la population tout entière avant de décider d'une loi qui parfois peut brimer certains individus dans leurs droits fondamentaux. Oui. C'est tout. Mais comme elle dit qu'elle va consulter, donc j'ai espoir qu'elle consultera puis qu'elle fera ça de façon très sage.
Mais le toujours revenant toujours ce choix de Jamila, ça vous enlève pas l'espoir un petit peu?
L'idée
déjà été d'avance.
Oui, elle pourrait.
Le projet était là.
Oui, le projet, bien sûr, il est là, c'est certain. Moi, je vous ai dit, je répète, c'est la
vous
façon
souhaitez,
d'avoir.
Vous souhaitez.
Oui, je souhaite beaucoup.
Vous voyez, madame.
Surtout, c'est une femme. Puis qu'elle pense, elle a dit qu'elle ne gouverne pas comme un homme et puis qu'elle va réfléchir. Donc moi, je lui fais confiance.
J'ai vu un directeur des élections, Pat Moll, qui disait que les femmes masquées avaient le droit de vote. Alors imaginez-vous si on a des élections le jour de l'Halloween.
Ce n'est pas le sujet, Roland.
Mais voyez ce que je veux dire, c'est que quand on veut faire l'égalité qui est mal faite, voilà ce qui arrive.
Mais ce n'est pas une égalité, elle demande, c'est vrai, vous allez un petit peu vous donner un exemple trop extrémiste.
Mais je suis d'accord avec vous.
Nous sommes d'accord, on voit comment voulez-vous qu'une femme toute couverte,
elle peut... Non, elle ne peut pas voter, on ne la reconnaît pas, c'est ça.
Mais on a des femmes
pour conclure. Que Madame Tamache, que vous voulez dire, simplement, et vous me corrigez, c'est que toute personne, il a le choix, la liberté, autant qu'il ne touche pas la liberté des autres.
Exactement, puis qu'il ne trouble pas l'ordre public.
Exactement.
Moi, j'estime que chacun fait ce qu'il veut. Écoutez, il y en a qui passent leur temps à prier, il y en a d'autres qui passent leur temps à visionner des films pornographiques.
Ah, ça, c'est très intéressant.
Voilà. Chacun, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est vrai, chacun, qu'est-ce qu'il fait?
Des films porno aux enfants.
C'est pas
gentil. Chacun, il fait ce qu'il veut, c'est ça que je dis.
Des films porno aux enfants. Ils ont changé ça.
Ben, écoutez,
ce qui est important surtout, excusez-moi, c'est la sécurité dans les rues, au moins qu'on puisse sortir, parce que là on sort, on ne sait pas ce qui peut nous arriver.
Même la police peut vous menacer, madame, et vous frapper. Voilà.
Roland, avec l'arrivée des péquistes, même minoritaires, sur la scène politique, pensez-vous que la justice, elle va un petit peu prendre plus de...
Mais moi, je voudrais qu'on cesse que le Premier ministre ou le ministre de la Justice nomme les juges et ainsi de suite. Ça commence à être de la gamique organisée. Je m'excuse. Là, il n'y a pas de justice comme ça. Non, je m'excuse.
Voilà, sur ça, donc, sur le...
On va changer les choses au Québec, là, parce qu'on est un beau pays qu'il ne faut pas abîmer. Ils
sont en train de l'abîmer. Absolument. C'est un mot de... Donc, il faut, le Québec, il ne faut pas l'abîmer. C'est un mot juste qui va faire clôturer cette émission. Donc voilà, malheureusement c'est tout le temps qui nous a été loué pour cette émission. Donc je remercie la participation de Madame Rokia Tamash, est-ce que j'ai bien prononcé Madame, de nous avoir expliqué les enjeux du choix de Madame Pauline Marois, notre future Premier ministre. Merci à Roland Cazès, comme d'habitude, pour son soutien et son éclairage. Sans oublier bien sûr Madame Suzanne Chartron, elle est absente aujourd'hui au technique de son, donc celui qui le remplace c'est Joseph Louis. Donc merci beaucoup Louis pour votre collaboration. Et finalement, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis sur le 102.3 FM. Et sur ça, je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Et bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Serait-ce un signe de paix? De violence, quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait, serait-ce un signe de paix, bien levé de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance, ce qu'il fait. Je me suis dit que c'était la même, parce qu'il fallait me faire une idée. On m'a traité de pessimiste avec des mots à me suicider. Et j'ai insisté, et encore j'insisterai. Mais apparemment, selon les grands, c'est long à exprimer. Ça prendra le temps, qu'il faudra le temps. Mais finalement, je le saurai dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans. Mais j'espère avant de crever. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Tentez de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom? Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, écoute-moi. Raconte-moi un chevalier.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Le CAMO PI fait la promotion de la main-d'œuvre immigrante comme solution gagnante au développement du plan Nord.
Le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes immigrantes, le CAMO PI, est financé par la Commission des partenaires du marché du travail pour développer des stratégies visant à accroître l'intégration des personnes immigrantes en emploi. Pour obtenir plus d'informations sur nos travaux et recevoir notre bulletin d'information électronique, visitez le camo-pi.qc.ca.
Salsa, reggae, samba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde.